VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 28 novembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré dit ignorer l'identité du commanditaire de la tentative de putsch de 2015.
Alors que la Mauritanie célèbre le 58e anniversaire de son indépendance, on signale que l'anti-esclavagiste Biramda Abeid est toujours détenu.
En République démocratique du Congo, le retour à Kinshasa de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe a été salué hier par des milliers de personnes.
Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis le 24 octobre à Riyad, attendu aujourd'hui au Maroc pour y poursuivre sa convalescence.
Le président de l'Ukraine, Petro Porochenko, a évoqué hier la menace d'une guerre totale avec la Russie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a affirmé hier ignorer que qui a commandité la tentative de coup d'État de 2015. C'était au deuxième jour de sa comparution au procès des putschistes présumés à Ouagadougou. Le point avec Bagassi Koura.
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire qui a commandité, qui a ordonné le coup d'État, a déclaré le général Gilbert Diendéré. La veille, il avait catégoriquement nié être à l'origine du coup d'État manqué. Il avait pris la tête du Conseil national pour la démocratie, organe dirigeant des putschistes, avant de rendre le pouvoir face à la pression populaire et celle de l'armée loyaliste. Il a été pendant 3 décennies un des hommes forts du pays comme chef du régiment de sécurité présidentielle, l'unité d'élite qui a perpétré le coup, puis chef d'état-major particulier du président Blaise Compaoré jusqu'à sa chute en fin 2014. Golfo, comme le surnomme les Burkinabés, est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, trahison et meurtre. Le coup de force a fait 14 morts et 270 blessés en septembre 2015. 84 accusés sont jugés par un tribunal militaire depuis le début du procès en février, dont un autre général, Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères. Maître Séraphin Sommet, avocat de la partie civile, a fait part de sa déception. L'audience doit reprendre aujourd'hui avec les questions du parquet militaire.
Alors que la Mauritanie célèbre le 58e anniversaire de son indépendance en 1960, on rappelle que Biramda Abeid, leader d'un mouvement anti-esclavagiste, est en prison depuis le mois d'août à la suite d'une plainte déposée par un journaliste. C'est derrière les barreaux que Biramda Abeid a été élu député aux dernières législatives en septembre, mais il reste toujours en détention. La réaction de Kadiata Malick Diallo, députée à l'Assemblée nationale à Nouakchott.
C'est une autre aberration de l'arbitraire, le règlement de compte contre les opposants. C'est tout ce que Oul Abdelaziz sait faire. Et nous avons vu, malheureusement, le député Biramda Oul Abeid amené à l'hôpital pour consultation. Et c'est menottes au poignet qu'il a été présenté à l'hôpital devant des médecins. Et donc c'est une situation vraiment qu'on ne peut pas qualifier. C'est tout simplement inadmissible qu'on puisse avoir un traitement fait à quelqu'un qui est de surcroît un parlementaire, donc qui jouit d'une immunité. Donc voilà la situation en Mauritanie.
Kadiata Malick Diallo, députée mauritanienne, que nous retrouverons en seconde partie de cette édition sur la pendaison il y a 28 ans de 28 militaires négro-mauritaniens.
En République démocratique du Congo, des dizaines de milliers de personnes ont salué hier le retour à Kinshasa du tandem Félix Tshisekedi-Vital Kamerhe. Les deux opposants ont promis d'aller aux élections du 23 décembre avec ou sans la machine à voter, que d'autres opposants qualifient de machine à tricher. Le point avec Eddie Isango.
La police a brièvement fait usage des gaz lacrymogènes pour tenter d'accélérer les rythmes du cortège entre l'aéroport de Ndjili et les centres-villes. « Nous irons avec le peuple et nous allons gagner », a déclaré M. Tshisekedi avec Vital Kamerhe, son directeur de campagne, qui a assuré qu'ils vont atteindre carrément les 60% de l'électorat. M. Tshisekedi, 55 ans, est le président et le candidat d'élu de PS fondé par son père Étienne Tshisekedi. M. Kamere, 59 ans, est un ancien président de l'Assemblée nationale, ancien directeur de campagne de Joseph Kabila en 2006 et passé à l'opposition depuis 2011. Le 12 novembre, ils se sont retirés au bout de 24 heures d'un accord entre sept opposants à Genève désignant Martin Fayulu, candidat commun de l'opposition. M. Fayulu a été salué par des milliers de personnes à son retour à Kinshasa mercredi dernier. Il est soutenu par les opposants Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. En face, l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary et les porte-drapeaux du Front commun pour le Congo et l'élection présidentielle du 23 décembre est un scrutin à un seul tour.
En Centrafrique, des membres du groupe de Mahamat Tahir, alias Apu, chef d'une milice, ont attaqué lundi des commerçants dans le secteur PK5 de Bangui. L'un d'entre eux a été abattu, une scène qui a lieu au lendemain du meurtre du chef de milice par un commerçant. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Apo a été abattu dimanche par un commerçant qui avait refusé de fermer boutique pendant une journée ville morte décrétée après une fusillade mortelle au PK5. Après cet incident, la MINUSCA a dû multiplier ses patrouilles. Le porte-parole de la mission Vladimir Montero indique cependant qu'il y a un regain de violence ces derniers jours au PK5. Au moins 6 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées mercredi et jeudi pendant des accrochages. Le PK5, poumon économique de Bangui, est régulièrement le théâtre de violence. En avril, elles avaient fait plusieurs dizaines de morts et s'étaient propagées, avec notamment des combats autour d'une église catholique le 1er mai qui avait fait au moins 24 morts et 170 blessés. La capitale est relativement calme, mais les massacres se sont poursuivis à l'intérieur du pays, dans des villes comme Alindao, Batangafo ou encore Bambari.
Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis le 24 octobre à Riyad, quittera la capitale saoudienne aujourd'hui pour Rabat, a annoncé hier son épouse Sylvia sur sa page Facebook. Des détails avec Morgane Guiriec.
Mercredi 28 novembre, Ali Bongo Ondimba, mon époux, quittera l'hôpital du roi Faisal de Riyad en Arabie Saoudite, a écrit Madame Bongo en ajoutant qu'il arrivera le même jour à Rabat. Madame Bongo Ondimba a souligné qu'elle et son mari tiennent avant toute chose à exprimer leur profonde gratitude à l'endroit des autorités saoudiennes et du corps médical. Pour poursuivre sa convalescence, le président, en concertation avec sa famille proche, a fait le choix d'accepter la proposition d'accueil de son frère, Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI. « Nous lui en sommes extrêmement reconnaissants », a ajouté Sylvia Bongo. Elle a précisé que ce transfert de Riyad à Rabat a été rendu possible grâce à l'amélioration très significative de l'état de santé de son mari, Ali Bongo. Depuis son hospitalisation le 24 octobre à Riyad, la présidence gabonaise n'a jamais précisé le mal dont souffrait le chef de l'État.
Au Nigeria, visite aujourd'hui du président Muhammadu Buhari à Maïdougouri, aux avant-postes de la guerre contre Boko Haram dans le nord-est, où les attaques d'envergure contre l'armée se sont multipliées ces derniers mois. Il doit y ouvrir, selon ses services, la conférence annuelle du chef d'état-major des armées. Cette conférence était initialement prévue à Benin City, dans le sud, mais dans le contexte actuel d'explosion de violence, la présidence a décidé à la dernière minute de l'organiser dans la capitale régionale du Nord-Est. Monsieur Buhari brigue un second mandat à la présidentielle de février 2019, mais son bilan sécuritaire est aujourd'hui très critiqué, l'opposition dénonçant le manque de soutien du gouvernement à des troupes épuisées et sous-équipées.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président ukrainien Petro Porochenko a évoqué hier la menace d'une guerre totale avec la Russie, qu'il a accusé d'avoir augmenté drastiquement sa présence militaire à la frontière, dramatisant encore la situation déjà tendue depuis l'arraisonnement de navires ukrainiens en mer Noire. Le président américain Donald Trump, qui attend un rapport complet sur cette situation, a lui menacé d'annuler sa rencontre prévue en fin de semaine avec son homologue russe au sommet du G20 en Argentine. Dans une interview au Washington Post, M. Trump a déclaré « Je n'aime pas cette agression, je ne veux pas d'agression ».
En Afghanistan, 3 soldats américains ont été tués et 3 autres blessés hier par une bombe artisanale près de la ville de Ghazni dans le centre du pays. Un autre américain, un contractuel, a été blessé.
Paul Manafort, ancien directeur de campagne du candidat Donald Trump, dément catégoriquement une information du journal The Guardian dans laquelle il aurait rencontré, selon laquelle il aurait rencontré à trois reprises Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, y compris au moment où il se joignait à cette campagne. Son avocat examine la possibilité d'un procès contre le journal qui n'a pas précisé sur quoi portaient ses réunions ni ses sources. Assange s'est réfugié à l'ambassade de l'Équateur à Londres pour éviter d'être arrêté et jugé aux États-Unis.
En Chine, au moins 22 personnes ont été tuées et 22 autres blessées aujourd'hui dans une explosion suivie d'un incendie à proximité d'une usine chimique du Nord, ont annoncé les autorités locales. La Chine a été le théâtre de plusieurs accidents industriels ces dernières années.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La surabondance actuelle du pétrole devrait persister en 2019 selon l'Agence internationale de l'énergie, entraînant la baisse du prix de l'or noir. Cela risque d'avoir des conséquences douloureuses pour des pays qui ont le pétrole comme principale source de devises, à l'instar de l'Angola, du Nigeria et de la Libye. Beaucoup de pays qui avaient tablé sur un baril supérieur ou égal à $70 devront revoir à la baisse leurs prévisions de recettes. C'est le cas du Congo-Brazzaville, qui avait misé sur un baril de pétrole à $70 pour 2019, selon le magazine Financial Bank. En Égypte, Delta Sugar, l'un des principaux acteurs du marché sucrier, compte cultiver près de 47 880 hectares de betteraves à sucre en 2018-2019, soit environ 17,5% de plus que la saison précédente, selon l'agence Reuters. Cette hausse vise à étendre la surface dédiée à la betterave sucrière, moins consommatrice d'eau que la canne à sucre. Pour finir, l'agence kényane de développement du thé, KTDA, prévoit assurer un meilleur prix mensuel pour les producteurs de thé à travers le pays. D'après Business Daily Africa, cette démarche fait suite à la pression exercée par les planteurs afin d'obtenir une revalorisation du tarif. La KTDA anticipe une hausse de 10% de la récolte de thé des petits producteurs en 2018.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le tour préliminaire aller était au programme hier en Ligue africaine des champions.
Entre autres matchs, le stade malien a soigné son entrée en s'imposant 1-0 à Bangui contre le stade centrafricain. Les Camerounais de Coton Sport se sont en revanche mis en difficulté en s'inclinant 3-1 au Burkina Faso sur le terrain de l'ASFB. Le CS Constantine d'Algérie a été accroché à domicile par les Gambiens de Gamtel 0-0. Le Jaraf Dakar a réussi son retour sur la scène continentale en s'imposant 1-0 face au Togolais de Kouriki. L'IRE Tanger s'est contenté du service minimum 1-0 à domicile face au Tchadien Delect Sport.
Tour préliminaire hier aussi en Coupe CAF.
Le stade d'Abidjan a signé une belle opération en s'imposant 2-1 en Mauritanie face au Nouakchott Kings. Le NN USND s'en est tiré sur le même score à domicile face au Congolais des Diables Rouges. L'USM Belabès a en revanche soigné son entrée en déroulant 4-0 à domicile contre les Libériens de l'Istre. Le FC San Pedro n'a pas brillé et les Ivoiriens ont dû se contenter du match nul à domicile face au Gambien d'Armed Force 1-1. Le Hassania d'Agadir a lui quasiment plié le suspense en corrigeant la garde nationale du Niger 4-0.
Nigeria, Afrique du Sud, ce sera l'affiche de la finale de la CAN féminine.
Oui, vainqueur du Cameroun en finale des deux dernières éditions, le Nigeria a encore fait mal au Lyon qui l'a éliminé en demi-finale à l'issue d'une séance de tirs au but après un score de 0 but partout à l'issue du temps réglementaire. Dans l'autre demi-finale, l'Afrique du Sud s'est qualifiée à son tour pour la finale en disposant du Mali 2-0. Les Aiglons tenteront de se consoler face au Cameroun vendredi lors de la petite finale. Le vainqueur de ce match sera qualifié pour le mondial féminin, de même que le Nigeria et l'Afrique du Sud, déjà sûrs d'y être et qui s'affrontent samedi en finale.
En Europe, ce sera l'exploit pour le PSG ou la Porte en Ligue des Champions ce soir.
Oui, toujours relégué à la troisième place du groupe C, Paris sera éliminé dès cette phase de poule s'il s'incline au Parc des Princes face à Liverpool et que Naples l'emporte à domicile contre l'Étoile Rouge de Belgrade dans le même temps. A contrario, un succès contre le vice-champion d'Europe sortant ouvrirait la voie vers les huitièmes de finale. Coup d'envoi 20h temps universel. On finit sur les plateaux américains avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Détroit et New York 115 à 108, Atlanta et Miami 115 à 113, Toronto et Memphis 122 à 114, Denver et Los Angeles Lakers 117 à 85, Indiana et Phoenix 109 à 104.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La Mauritanie célèbre aujourd'hui l'anniversaire de son indépendance obtenue en 1960. Cette date correspond à un autre anniversaire, celui-là tragique. Le 28 novembre 1990, 28 officiers négro-mauritaniens ont été torturés et pendus à la base militaire d'Inal. 28 ans après, cette affaire n'a jamais été élucidée par les gouvernements successifs. Pour un rappel de ce qui s'est passé, Idriss Fall a joint Kadiata Malick Diallo, député à l'Assemblée nationale à Nouakchott.
Il y avait d'abord eu, depuis septembre 90, l'arrestation de centaines de Noirs mauritaniens, civils et militaires. Certains de ces militaires ont été transportés à Inal. Et à la veille du 28 novembre, le 27 donc au soir, après plusieurs séances de torture, il y avait déjà eu des morts. Et cette soirée-là, les geôliers ont décidé de sacrifier 28 soldats négro-africains pour la fête de l'indépendance. Et c'est au hasard qu'ils les ont numérotés de 1 à 28. Et ils les ont exécutés par pendaison. Les 28 ont été comptés, numérotés 1 à 28 et pendus.
28 ans après, est-ce que l'État mauritanien a jamais mis la main sur les auteurs de ces pendaisons?
Non, absolument pas. D'abord, du temps de Maawiya, Sid Ahmed Taïa, c'est au cours de son régime qu'il y a eu d'ailleurs ces événements. Lui, c'était plutôt la négation. Il s'agissait plutôt d'une mutinerie tantôt d'une tentative de coup d'État, et que il y a eu des affrontements au sein des casernes et qu'il y a eu des morts. C'est un peu la version, bien qu'il a été obligé quand même de verser une modique pension aux ayants droit. Mais malgré tout, Maawiya avait quand même diligenté une enquête militaire dont le rapport est gardé secret défense jusqu'à présent. Et après Maawiya, c'est Sidi Cheikh Abdallah qui a initié un processus qui aurait pu déboucher sur quelque chose d'intéressant parce qu'il a commencé par organiser des journées de concertation dans lesquelles le dossier, le problème a été posé et les gens étaient en train de rechercher quelle est la meilleure approche pour rechercher la solution. Malheureusement, il y a eu le coup d'État contre Sidi Oul Cheikh Abdallah et moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est parce que Sidi Oul Cheikh Abdallah avait initié ce processus de recherche de solution que probablement les militaires comme Mohamed Abdelaziz et compagnie ont décidé, entre autres raisons, de destituer Sidi Oul Cheikh Abdallah. Oul Abdelaziz lui a trouvé une pernicieuse manière de parler d'un règlement en associant les victimes, les rescapés de prison, les veuves et tous ceux qui pouvaient être mis dans ce sac, d'accepter qu'il aille faire une prière à Kaïdi et ensuite de verser un montant en guise de réparation pour les massacres. Mais jamais il n'a accepté que le dossier soit traité sous l'angle de la justice. Et pire, Oul Abdelaziz a, dans un accord avec les victimes, mentionné que celui qui perçoit cette indemnisation renonce définitivement à porter plainte et que personne d'autre ne le fera à sa place, ni à l'intérieur du pays, ni à l'extérieur. Donc, il a verrouillé tout ce qui pouvait être posé comme une voie de recours, à la fois au plan interne et à l'extérieur.
Kadiata Malick Diallo, député à l'Assemblée nationale à Nouakchott.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Retour sur la mort présumée du chef terroriste Amadou Koufa dans le centre du Mali. Il aurait été tué dans un raid des armées françaises et maliennes le week-end dernier. Il y a quelques semaines, dans une vidéo de propagande, Koufa avait appelé les peuples de la région à s'unir pour le djihad. Que signifie sa mort pour la lutte contre le terrorisme au Mali? Bagassi Koura a joint à Dakar Bakary Samb, spécialiste du terrorisme en Afrique.
Amadou Koufa peut être considéré comme un produit des frustrations qui ont frappé les communautés peules qui étaient victimes de vols et d'extorsions de leur bétail de la part de certains éléments du MNLA et à un certain moment sont allés apprendre à manier les armes du côté de Atmi. Il y a une différence de perception d'Amadou Koufa qui, sur le plan international, est considéré comme étant le chef du Front de libération du Massina, alors que lorsqu'on se rend sur place, c'est quelqu'un de très isolé, sans grande influence, mais qui a su récupérer une frustration des peuples dans cette région-là, qui n'avaient plus de pâturage et qui commençaient à vivre dans un certain nombre d'injustices de la part aussi bien des forces de sécurité et de défense, mais aussi de certains éléments armés contre lesquels ils ont voulu se défendre, ce qui a poussé certains éléments qui l'ont accompagné à aller apprendre à manier les armes auprès de Acme et d'autres groupes djihadistes.
Récemment, on l'a vu dans une vidéo à côté d'autres chefs djihadistes, dont notamment Yag Gali. Ça veut dire qu'il avait pris des galons.
Oui, vous savez maintenant que les groupes terroristes ne sont plus dans une forme d'organisation hiérarchisée, mais ils sont surtout dans la logique de captation de toute forme de frustration. Comme on dit, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Et donc, ce qui l'a poussé à aller vers Yag, actuellement, il y a des tentatives de regroupement. Mais il ne s'agit nullement d'une organisation hiérarchisée avec un commandement centralisé. Aujourd'hui, les groupes djihadistes ont complètement changé de mode d'opération. Il ne s'agit plus d'organiser des réseaux opérationnalisés, des réseaux à commandement uniformisé. Il s'agit maintenant de capter les conflits locaux, de capter les frustrations locales, d'y mettre une coloration islamique, sachant que s'ils le font, les puissances occidentales vont intervenir et que ça va encore augmenter la frustration. On peut comprendre cette forme d'alliance, en tout cas visualisée, comme une stratégie non seulement de rapprochement, mais de dire que ça y est, nous sommes inscrits dans la mouvance djihadiste et nous partageons les mêmes ennemis pour le moment.
Sa mort, qu'est-ce que ça pourrait changer?
Sa mort ne changera absolument rien dans ce qui se passe actuellement dans le centre du Mali. Au contraire, avant, il y avait le discours et l'idéologie. Aujourd'hui, il y a l'image du martyr qui peut encore accentuer les conflits dans le centre du Mali.
C'était le professeur Bakary Samb, spécialiste du terrorisme en Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie. Et cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur les violences contre les femmes. La journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, c'était le 25 novembre, l'occasion de dresser un état des lieux. Plus de la moitié des femmes assassinées dans le monde en 2017 ont été tuées par leurs compagnons ou des membres de leur famille. Le domicile est donc l'endroit le plus dangereux pour une femme. Et d'après l'ONU, c'est en Afrique que les taux sont les plus élevés. Comment expliquer l'ampleur des violences conjugales sur le continent? La justice protège-t-elle suffisamment les victimes? Comment impliquer les hommes dans les solutions? On en discute ce jeudi à 19h30, temps universel.
Au Bénin, les autorités ont salué, je cite, « le courage et la détermination du président Emmanuel Macron qui a annoncé que la France allait restituer sans tarder 26 œuvres réclamées par Cotonou ». Le président français entend aussi réunir les partenaires européens et africains pour construire une politique d'échange. Irénée Herman Ungbo.
Les objets d'art africains exposés à Paris pourraient bientôt se retrouver dans des musées en Afrique. 90% du patrimoine culturel du continent se trouve en Europe, dans des collections publiques et privées. Marie-Cécile Zinsou est la présidente de la Fondation Zinsou à Ouida, au Bénin.
Dans le cas du Bénin, les œuvres sont parties avec le pillage colonial en 1892. Le général Dodds a emmené une partie des œuvres qu'il a données au Musée de l'Homme et une partie des œuvres sont parties aux soldats et réapparaissent sur le marché de l'art de temps en temps. D'autres œuvres ont été donnée ou léguée au musée de l'Homme puis au musée du Quai Branly, et certaines ont été acquises au cours du XXe siècle.
Au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne sont dans les collections publiques françaises. Plus de deux tiers de ce patrimoine du continent se trouvent au Quai Branly, dont 46 000 acquises durant la période 1885-1960. Récemment, le Bénin a réclamé la restitution de certains des objets d'art de son patrimoine, environ 5 000 œuvres exposées dans des musées en France. Début 2018, le président Macron a décidé d'amorcer un changement, indiquant que le patrimoine africain ne devrait pas être seulement dans des musées français. Patrick Sivek est professeur d'art à la retraite.
Ça permettrait peut-être aux habitants de ces pays-là de connaître un peu mieux le fond culturel de leur pays, parce qu'en fin de compte, là-bas, il n'y a pas grand-chose qui peuvent, comment dirais-je, avoir un rapport avec leur histoire culturelle et notamment artistique, puisque tout est parti en Europe. Donc ça serait pas plus mal que les populations de ces pays-là puissent aussi avoir accès assez facilement à ces œuvres.
Claude Fourquet est un passionné de l'art africain.
Alors, à partir du moment où on a mis autant de moyens pour les mettre en place ici, je pense que est-ce qu'il n'y a pas autant d'œuvres qu'on pourrait exposer à ce moment-là réciproquement donc, dans d'autres pays, et est-ce qu'il n'y a pas aussi des œuvres occidentales qu'on pourrait aussi exposer? Enfin, je ne sais pas, ça peut être un point de départ, disons, à créer des liens.
Seulement 26 objets d'art seront restitués pour le moment à l'État béninois. Toutefois, l'Élysée affirme que la restitution des œuvres béninoises ne doit pas constituer un cas isolé ni purement symbolique. Paris souhaite que toutes les formes possibles de circulation soient considérées, restitution mais aussi exposition, échange, prêt, dépôt et coopération. C'est sur cette base que l'Élysée réunira à Paris au premier trimestre de l'année prochaine l'ensemble des partenaires africains et européens pour définir le cadre d'une politique d'échange.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a défendu l'utilisation de gaz lacrymogène par des agents américains pour arrêter un groupe de migrants d'Amérique centrale qui tentait d'entrer de force dans le pays. Les autorités des deux côtés de la frontière avec le Mexique ont arrêté des migrants et se sont engagés à poursuivre les auteurs d'actes de violence. Morgane Guériec.
Dimanche, à Tijuana, au Mexique, quelques 500 migrants venus d'Amérique centrale, dont des femmes et des enfants, après une manifestation pacifique aux abords de la frontière, se sont subitement dirigés vers la barrière métallique pour tenter de passer illégalement vers les États-Unis. Les forces américaines ont tiré des gaz lacrymogènes pour leur barrer la route. Des responsables américains ont déclaré que des membres de la caravane de migrants ont lancé des projectiles sur les gardes-frontières. Le président Donald Trump, qui a déployé des milliers de soldats pour soutenir les opérations à la frontière, a défendu ce recours à la force. Ils ont dû y recourir car ils ont été contraints par des gens très durs et ils ont utilisé des gaz lacrymogènes. Personne ne rentre dans notre pays à moins d'y entrer légalement. La police de Tijuana a arrêté des dizaines de migrants qui tentaient de franchir illégalement la frontière. Sur les médias locaux, le chef du service mexicain des migrations a indiqué que près de 100 migrants, pour la plupart des Honduriens, ont été renvoyés vers leur pays d'origine. Les services américains de douane et de protection des frontières disent avoir arrêté 69 personnes. La police des frontières a toutefois reconnu que de nombreux migrants ont réussi à traverser sans se faire arrêter. Erlin Juarez, bloquée à Tijuana, fait partie des milliers de migrants qui veulent échapper à la pauvreté au Honduras. Nous devons utiliser la force pour faire pression sur Trump afin qu'on nous laisse rentrer. Ils mentent quand ils disent qu'ils vont régler la paperasserie, car nous sommes trop nombreux. Des groupes de défense des droits de l'homme accusent le président Trump d'avoir provoqué cette crise en mettant fin au programme d'asile. Melissa Crow de la Southern Poverty Law Center. En utilisant des gaz lacrymogènes, l'administration Trump empêche les gens de s'approcher de la frontière, même entre des points d'entrée. Et la raison pour laquelle ils le font, depuis assez longtemps maintenant, c'est qu'ils ne sont pas autorisés à présenter et à demander l'asile à ces points d'entrée officiels.
at official ports of entry.
Lundi, Donald Trump a de nouveau menacé de fermer de manière permanente la frontière qui s'étend sur 3000 km et qui représente un axe commercial majeur. Il a aussi menacé de fermer le gouvernement fédéral à moins que le Congrès finance le projet de mur frontalier.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'insomnie.
On parle d'insomnie lorsque l'on a des difficultés à s'endormir à l'heure du coucher, lorsque l'on fait des réveils nocturnes fréquents ou prolongés, ou quand on se réveille prématurément le matin avec une incapacité à retrouver le sommeil.
Pour en parler, nous recevrons Emmanuel Epeng, neurologue en RDC. Il nous donnera des astuces pour éviter l'insomnie.
Nous écouterons le témoignage d'une insomniaque qui nous racontera ses difficultés quotidiennes. Nous donnerons aussi la parole à un psychologue.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.